qu'on a organisé aujourd'hui à Courtel, donc jeux vidéo et science-fiction. Donc on a la chance d'avoir trois intervenants cet après-midi pour en discuter. Donc Elie Düring qui est philosophe, qui va nous parler des jeux primitifs, entre autres, donc cette relation entre science-fiction et jeux vidéo. Nous avons également Henri Desbois, géographe, qui va nous prendre plutôt l'exemple, enfin la comparaison cinéma-jeux vidéo, une comparaison qu'on va retrouver également dans l'intervention de Marc Marty. Alors, je sais jamais si on dit littéraire ou prof de littérature, professeur de littérature, pour évoquer également ce parallèle entre jeux vidéo et science-fiction. Alors, pour ma part, ce qui m'intéressait quand on a réfléchi sur ce thème-là, c'est qu'on associe de manière intuitive et très souvent le monde du jeu vidéo au monde de la science-fiction, ne serait-ce que parce qu'on a souvent l'idée qu'il s'agit de la même population, c'est-à-dire les joueurs sont aussi des fanas de science-fiction, les mêmes populations, les mêmes contenus également, puisque la science-fiction a largement nourri les univers vidéoludiques, et inversement, de plus en plus, on voit bien que les jeux vidéo sont transposés au cinéma, dans des univers science-fictionnels. Et donc ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de déconstruire un peu cette relation, comprendre si effectivement il y a bien une relation intuitive, ou si on n'a pas quand même deux objets qui présentent des caractéristiques qui seraient finalement relativement différentes du fait même qu'on a des médiums relativement différents, sachant que la science-fiction est un objet transmédial, puisque c'est propre à la fois aux jeux vidéo, mais aussi au cinéma. On a un monde fou aujourd'hui, au cinéma et à la littérature. Voilà, on laisse les derniers spectateurs s'installer. Et puis, je crois que, donc, Eddie, si tu es prêt, on peut commencer minutes. Directement. Alors, en gros, une vingtaine de minutes par intervenant, ce qui permet de garder de la place pour la discussion. Alors, simplement pour le public, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'à l'issue de chaque intervention, on prend quelques minutes de questions, mais qui sont plutôt des questions de type précision sur le contenu, et pas forcément des questions pour ouvrir le débat, en espérant garder justement pour la fin des questions plus larges sur le débat, mais
parce qu'on a eu une bonne heure et demie à la fin.
Voilà, on essaie de garder un maximum de temps pour la fin, ne serait-ce que parce qu'il y a trois intervenants, donc pour respecter les temps de parole de chacun, pour que chacun ait le temps de présenter ses interventions, sachant que on jouera les méchants, les méchants ordonnateurs, s'il faut un peu raccourcir les débats ou censurer les questions si on prend trop de retard. Voilà, on se permettra d'interrompre de temps en temps. Voilà, comme on commence dans l'heure, à l'heure, c'est parfait, autant se lancer directement.
Merci. Moi, je suis très content d'être là parce que très curieux aussi de ce que je vais apprendre. Parce que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de jeux vidéo, c'est pas mon objet d'étude. Et je ne suis pas non plus, ça c'est peut-être plus problématique, je ne suis pas non plus un gamer. Enfin, je l'ai été, mais il y a très très longtemps, c'est pour ça que je me concentre sur les jeux primitifs. Je ne suis pas si vieux que ça, mais néanmoins, mon activité, participation intense à l'aventure du jeu vidéo en tant qu'usager, se situe à la fin des années 70, au début des années 80. Donc, dans une sorte de préhistoire. Du jeu vidéo, peut-être l'âge néolithique du jeu vidéo, il faudrait préciser. Et donc je le redécouvre aujourd'hui, je m'y intéresse à nouveau, de façon assez livresque, autant le dire tout de suite, mais néanmoins, comme j'ai l'habitude de le faire en fréquentant des gamers qui me donnent des informations, je retrouve cette affaire par un biais que je veux simplement... expliciter là, qui est la question de la spatio-temporalité du jeu en général, et alors singulièrement du jeu vidéo, dont je crois vraiment un des intérêts majeurs est la manière dont il construit des espaces-temps tout à fait singuliers avec des protocoles qu'on peut directement expliciter, un peu comme en physique. On construit des espaces-temps, on peut dire comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça, etc. Pourquoi les choses se compliquent du fait que les jeux, on y joue. C'est pas simplement des espaces de représentation, mais précisément des espaces de jeu. Et c'est là, je crois, que mon expertise tourne court, puisque, et c'est là peut-être que vous, par vos questions, vous me relancerez dans de nouvelles directions, parce que j'avoue que, je vais admettre d'emblée que l'approche que je vais vous proposer là est une approche qui est à la fois historique, technologique, et assez peu, en fait, orientée usage. Mais pas non plus, ça c'est l'autre aspect, ça vous frappera peut-être, pas non plus tellement intéressé par la question de la représentation, ou disons de l'univers du jeu. Je ne sais pas quel est le terme approprié. Le monde, les mondes que portent les jeux que je vais évoquer. Ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est de cerner quelques dimensions de ce que j'appellerais, par analogie avec le cinéma, les jeux vidéo primitifs. On parle parfois, même si certains n'aiment pas cette expression pour le cinéma, de cinéma primitif, pour expliquer ce qui se passe en gros de 1895 à 1908. Bon, là, je pourrais préciser, pour moi, c'est l'affaire se joue donc entre 1958 et, disons, 1981, quelque chose comme ça. Il y aurait une époque comme ça, un peu trouble du jeu vidéo, où les choses se mettent en place, où des paradigmes concurrents se dessinent, et où finalement quelque chose se concrétise, une tendance lourde se concrétise, qui va stabiliser une certaine conception du jeu vidéo, de ce qu'est la chose jeu vidéo, alors qu'il y avait d'autres virtualités, qu'il y avait d'autres possibles. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'abord des dispositifs, en fait. Donc, ni des univers de jeu, disons, des rapports ludiques à la chose jeu vidéo, mais quelque chose comme de l'ordre du dispositif, et aussi, du coup, des espaces-temps singuliers liés à des techniques, à des technologies de cette époque. Bon, et alors, ce que je me suis dit, puisque le thème, c'est quand même la science-fiction, c'était que j'allais prendre comme une espèce de fil conducteur, mais c'est plus un programme, quoi. Je suis en train de travailler un texte qu'il faudra que je mette au point, mais l'idée, c'était de se dire, au fond, il y aurait une uchronie du jeu vidéo qu'on pourrait tenter de déceler dans les films, dans les films de science-fiction qui mettent en scène des jeux vidéo. Donc, la représentation du jeu vidéo dans les films d'anticipation, quelque chose comme une figure rétro-futuriste du jeu vidéo à travers le cinéma qui nous donnerait l'idée de ce que serait une uchronie du jeu vidéo, une uchronie possible du jeu vidéo, c'est-à-dire une histoire alternative, conjecturale, sur le mode de contrefactuel du « et si » qui nous donnerait l'idée de ce qu'aurait pu être en fait le jeu vidéo des années 2011. Et donc, du même coup, c'est ça l'intérêt des uchronies, de ce qu'il est, en fait. C'est-à-dire que les virtualités qui n'ont pas été développées jusqu'au bout, elles sont pourtant actives, encore aujourd'hui. C'est en ça qu'il y a un intérêt à développer méthodologiquement des uchronies. Ce n'est pas juste pour rigoler, mais pour faire apparaître des dimensions qui restent un peu à l'état latent, ou qui restent cachées dans notre représentation dominante du jeu vidéo. Alors ça, c'est le programme énoncé dans sa plus grande abstraction. Et simplement, pour tout de suite lancer quelque chose de concret, je vais commencer par cet extrait d'un film. Alors, j'ai pas vérifié la date là, mais dans mon esprit, c'est 75 ou 76, qui est Soleil Vert. Vous avez peut-être vu Soylent Green, qui est une fable politico-écologique. Bon, ça se donne comme un film de science-fiction, mais en fait, l'intérieur est un intérieur des années 70, et on joue dans la vidéo des années 70. Alors, est-ce que certains l'ont identifié? Ça ressemble un peu à Astéroïd. Et en même temps, c'est pas la version officielle. Enfin, c'est une version possible de ce jeu, vous connaissez. Elle joue très mal. Bon. Pourquoi je vous montre ça? Bon, ben d'abord, ça illustre bien la dimension rétro-futuriste de l'Uchronie. L'Uchronie, ici, ce serait qu'est-ce qui se serait passé si on avait continué à jouer à des jeux comme ça. Alors là où le film est très mauvais, c'est qu'en fait, bon, il n'en fait pas grand-chose. Il installe juste un jeu vidéo des années 70 dans un intérieur des années 70, mais en nous disant qu'on est dans le futur. Mais enfin, si on le faisait bien, il faudrait imaginer, alors sur le mode peut-être de ce qu'on appelle parfois la fiction steampunk. Je sais pas si, il y a le roman fameux de Gibson et Bruce Sterling qui a un peu lancé l'idée et qui s'appelle La machine des différences, c'est ça ?
Machine à différence.
L'idée étant, c'est une très belle idée, mais moi j'aimerais bien qu'on puisse la transposer aux jeux vidéo, ce serait drôle de voir ce que ça donne. C'est l'idée que Babbage, un des aventures des premières machines à calculer, enfin, performantes, que Babbage aurait inventé l'ordinateur, quoi. Il serait allé jusqu'à inventer l'ordinateur tel qu'il est apparu un siècle plus tard, mais disons sous l'Angleterre victorienne, et que donc on aurait une espèce de télescopage d'une technologie à vapeur, steam, ouais. Et d'une technologie électronique.
Quoi. Non, c'est des ordinateurs à vapeur.
C'est des ordinateurs à vapeur.
Oui.
Il n'y a pas d'électronique.
Non.
Là, c'est le sucré sur le fun. J'ai pas lu ce livre. Sinon, je saurais. Et donc, bon, l'idée, moi, en transposant simplement, ce serait de dire quels seraient les jeux vidéo. Ah non, pas forcément inventés à l'âge de l'Angleterre victorienne, mais bon, en quelque sorte, des jeux vidéo à vapeur. Ce serait quoi l'équivalent? Bon, alors, comme ce que suggère cette image, cet extrait, c'est que, et c'est là-dessus que je me concentrerai, ce serait des jeux vidéo de style vectoriel, c'est-à-dire qu'ils utilisent une technologie graphique vectorielle. Bon. Par différence avec bon, ce qui a pris le dessus très rapidement, enfin pas si rapidement que ça, en fait, dans les années 80, massivement, le style vectoriel a été écrasé par bon, un type d'interface graphique qui utilise bon, des écrans cathodiques à balayage. Quoi. Donc, le balayage, c'est quoi? C'est l'idée que on trace une image point par point, mais chaque point est retracé 30 fois en une seconde. Quoi. Ça va très vite, mais c'est quand même l'idée qu'il faut sans cesse maintenir l'image en activité en la traçant point par point, ce qui demande beaucoup de puissance de calcul. Maintenant, ça va très vite, bon, ça ne pose plus tellement de problèmes, mais à l'époque où le style vectoriel s'est développé, c'est-à-dire justement dans cette séquence 1977-1986, donc on prend un intérêt que ça doit être un film de 77-78 plutôt, à l'époque, donc, en fait, l'intérêt du style vectoriel, alors, que je vais expliquer tout de suite, c'était que c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, et ça permettait un rendu beaucoup plus fluide et précis, en fait. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ça ne fonctionne pas à balayage, mais qu'on a ces systèmes, en fait, de l'oscilloscope, on a un système de coordonnées, quoi, donc ce n'est pas une matrice de pixels, en fait, même si ça fonctionne quand même par point, il y a un système qui est que les coordonnées d'un point de deux points étant données, donc il faut quatre données, si dans un espace à deux dimensions, vous allez pouvoir envoyer une commande qui soit trace le segment qui relie ces deux points, soit allume ces points pour eux-mêmes. Et donc en fait, vous n'avez pas besoin de balayer et donc de recréer en temps réel tout le temps l'image. Vous n'avez qu'à vous occuper des contours en quelque sorte. Et donc, en fait, c'est ça qui rend la chose beaucoup plus légère, c'est qu'on a un écran qui est essentiellement noir, quoi, et où on active simplement les pixels ou les lignes lumineuses, fluorescentes, hein, souvent c'est vert sur fond noir, dont on a besoin pour tracer l'espace de jeu. Bon. Donc, pour la première intuition, ce serait ça, ce serait de dire que la fiction, l'Uchronie, d'un jeu vidéo qui se serait développé comme ça, en poussant jusqu'au bout la puissance du style vectoriel, ce serait ça, l'équivalent d'une fiction steampunk pour les jeux vidéo. Et donc ce serait donc ici l'oscilloscope en quelque sorte, la matrice de l'oscilloscope serait l'équivalent de la machine à vapeur. Bon, ça c'est la première chose. Après, bon, quel est le bénéfice d'essayer de construire ça? Et je vais essayer de le construire juste avec deux petits exemples, quoi, deux petites analyses de cas. L'intérêt, il est de d'abord de rendre plus palpable l'enjeu, enfin l'espèce de bifurcation originaire qui a travaillé, disons, les premiers temps du jeu vidéo et qui très vite s'est soldé par la domination d'une représentation du jeu vidéo et cette tension entre deux paradigmes, c'est celle qui oppose, on pourrait dire, un paradigme domestique, celui de la console de salon, et puis un paradigme, disons, alors je ne trouve pas le terme, j'ai cherché là dans le train, plutôt l'espace public ou semi-public du bistrot, de la foire, de la salle de jeux d'arcade, etc. Et c'est évidemment la borne de jeu d'arcade, qui est évidemment un dispositif tout à fait différent et qui a été investi massivement par justement les jeux que j'appellerais maintenant vectoriels. Donc cette tension, elle n'est pas simplement entre deux types de technologies, hein, les consoles de salon et les bornes d'arcade, mais aussi entre peut-être des jeux qui sont plus orientés vers l'aventure, avec parfois une dimension d'immersion, même si ce terme est absurde en réalité. Mais disons, une dimension de représentative très forte, terme encore plus absurde si on utilise à ce degré de généralité. Et puis, on comprendra mieux par contraste. De l'autre côté, du côté des arcades, donc des jeux d'arcade, des jeux qui sont plutôt orientés vers disons, une dimension spectaculaire, je préciserai ce terme, et une dimension, disons, d'adresse, ou la dimension du jeu d'adresse est encore présente, avec peut-être un, s'il faut jamais oublier que dans la préhistoire du jeu vidéo, un rapport encore très sensible, en tout cas dans les usages à l'époque, avec les jeux de foire électromécaniques, du type flipper, du type, comment ça s'appelle, les palais, là, qui là, c'est même pas électro. Hein,
c'est mais, palais.
Ouais, le jeu de palais. Mais il y a des versions des beaucoup versions plus électro. Sophistiquées. Et puis bon, les jeux déjà électroniques hein, qui se greffent dans cet environnement, comme Indy 800, qui doit son nom en fait qu'on peut y jouer à 8, avec des volants et des pédales, et on fait une course quoi, à 8 voitures. Et bon, le statut de ces dispositifs m'intéresse parce qu'on voit bien qu'on est dans une zone tout à fait intermédiaire. Qui est à peu près celle qu'a connue le cinéma quand on avait dans le même genre de lieu, dans des salles de jeux ou de projection, des salles de spectacle, comme on disait, de divertissement à l'époque, où on voyait quasiment côte à côte bon, bah, des séances de cinématographes et puis des kinétoscopes qu'on pouvait consulter soi-même. Alors voilà, ça c'est le kinétoscope d'Edison, un truc parfaitement fonctionnel, quoi. Simplement, il a perdu quoi, dans l'histoire du cinéma primitif, très rapidement, il a été supplanté par le cinématographe, qui est un dispositif de projection, alors que le kinétoscope, bon, demandait à ce qu'on se penche dessus, c'était une vision privée, quoi, personnalisée. On pourrait dire que ce qui s'est passé en fait, pour le jeu vidéo primitif, c'est l'inverse, c'est-à-dire ce qui a pris le dessus, c'est finalement, au bout de quelques années, c'est le jeu vidéo dans sa dimension privée, c'est la version kinétoscope qui a gagné, contre la dimension plus publique du jeu d'arcade, où on peut se mettre à quatre et lorgner sur l'épaule du voisin, etc., dans un contexte plus ou moins festif et bruyant. Bon, ces parallèles-là, je les suggère, mais en fait, il faut savoir, et c'est moi ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans ce voisinage théorique, c'est qu'il y a toute une littérature, ceux qui fréquentent les études cinématographiques le savent bien, qui s'est développée, je dirais, dans les 15-20 dernières années, sur le cinéma primitif, envisagé du point de vue des technologies, justement des dispositifs de projection, de production d'images, de vues animées, comme on disait à l'époque. Et ça produit des résultats très intéressants parce qu'on s'aperçoit que l'esthétique du premier cinéma est complètement conditionnée par un certain nombre de dispositifs, justement, et que sur cette base, on a pu dégager bon, toute une théorie de ce que André Gaudreau appelle le cinéma des attractions. Je dirais de la même façon, et on pourrait presque transposer en tout cas les problèmes, il faudrait ensuite les réaménager pour être fidèle à la singularité de ces dispositifs de jeux vidéo primitifs, mais les problèmes sont les mêmes, je crois. Gaudreau appelle cinéma des attractions un cinéma qui privilégie la dimension spectaculaire, la dimension de l'effet, la dimension centrifuge, quelque chose qui doit en quelque sorte frontalement percuter le spectateur, aussi un style de la saccade, de la fragmentation, une stylisation très forte des formes spatiales, etc. Bon. Et je dirais que le style vectoriel dans le jeu vidéo, j'en dirai quelques mots en tout cas dans un instant, il est à certains égards assez proche de ce type d'esthétique-là. Donc mon intuition théorique, c'est qu'en fait, il y a un travail du même ordre à fournir sur les jeux vidéo primitifs, du même ordre que celui qu'on a déployé pour le cinéma dit primitif, ou parfois on dit cinéma des premiers temps. Il y a un peu le même genre de problème qu'avec l'expression primitif pour les cultures ou les civilisations. On n'aime pas trop ce mot. Bon, il y a l'avantage simplement de désigner un état premier, quoi. Il y aura peut-être un jour un musée des jeux vidéo premiers, quelque part. En tout cas, j'essaie de raccorder avec mon truc, c'est-à-dire avec aussi le temps que j'ai, c'est-à-dire 5 minutes en gros. Ça c'est des images, rétro-futuristes. J'aurais une distinction précise à faire entre deux orientations du rétro-futurisme. Le rétro-futurisme auquel on s'intéresse aujourd'hui, quand on s'intéresse par exemple au design des années 60, pour la chaise bulle, la maison Futura, qui porte bien son nom. Cette dimension, c'est celle de la représentation du futur par un passé qui est le nôtre. Et donc, il dit quelque chose de notre futur, ou plutôt de notre présent. Et puis, il y a une autre dimension qui est liée à vraiment un travail beaucoup plus constructiviste, beaucoup moins archivistique, qui consiste à greffer en quelque sorte des éléments du présent ou d'un futur proche dans le passé. Et c'est ça qui est à l'origine de ces fictions steampunk. Je signale simplement, parce que moi j'y suis venu comme ça.
Well, the museum went for this crazy exhibition.
Il y a eu une exposition très étonnante il y a quelques temps.
Someone I'd never heard of in New York.
Les technologies steampunk. Des gens qui travaillent à cet esprit-là.
A chap called Art Donovan. And he told me about this steampunk
movement. Vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est assez intéressant. Il y a
should explore. So we quite like the idea that
donc c'est l'idée d'une technologie victorienne. Il y a des gens bon, qui un peu dans le fil de, voilà, d'activités d'ingénierie amateur ou de bricolage technologique s'ingénient à fabriquer des machines avec des composants ou des éléments, des matériaux rétro, donc une horloge digitale mais en bois et qui utilisent des procédés de lumière. Mais de la même façon, je trouve très singulier qu'aujourd'hui un certain nombre de gens travaillent à reproduire sur des oscilloscopes, des oscillographes, des jeux vidéo bien connus, Tetris là-haut, ici je ne sais pas ce que...
Damage...
Comment
ça
s'appelle ça ressemble à beaucoup de jeux qu'on connaît. Et là-haut, je ne vois pas très bien ce que c'est, mais je ne sais plus. Bon, alors on peut travailler à reproduire vectoriellement des jeux vectoriels, mais pas nécessairement, enfin des jeux auxquels on a l'habitude de jouer sur toutes sortes de consoles, comme Tetris. Voilà. Je passe sur Trod, j'en aurais dit un mot si j'avais eu le temps. Et j'en viens à mes maintenant que vous avez compris un peu les enjeux, quoi, de mon affaire uchronique, je veux en venir à deux points, en fait. Je veux zoomer sur... d'une part, alors quelque chose qui est de l'ordre, c'est vraiment le basculement du paléolithique au néolithique, qui est bon, la question de vraiment qu'est-ce que c'est le premier jeu vidéo. Grande question. Question de priorité, bon, aussi absurde que celle de l'invention de la relativité, Einstein ou Poincaré, etc. Alors bon, je dirais la réponse dominante, c'est Pong, 1972. Cette réponse est parfaitement arbitraire, même si on peut toujours donner des raisons. Enfin, elle est arbitraire si on prétend que ces raisons sont définitives et suffisantes. Parce que on pourrait tout à fait en donner d'autres pour dire que, par exemple, le premier jeu vidéo a été inventé en 1948, en 1952, en 1958, ou en 1962. Je ne prends pas ces dates au hasard. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport qu'on peut établir entre Pong, 1972, et un jeu qui n'était pas du tout pensé comme un jeu de console, qui n'était même pas pensé, en fait, comme un jeu vidéo au départ, qui était vraiment un exercice de démonstration, un display, une démo pour simplement animer un peu la galerie dans un laboratoire, qui travaillait avec des outils très sérieux et très ennuyeux, d'après les ingénieurs qui étaient en train de faire. En 1958, on a mis au point un jeu qui s'appelle Tennis for Two. Alors, je reviendrai à Pong. Ça, Tennis for Two, 1958, a d'abord été fabriqué sur un oscilloscope par des ingénieurs vraiment qui ont conçu le truc en 3 heures, paraît-il, et qui ensuite ont mis 3 semaines à le fabriquer vraiment, parce que c'était difficile, c'était de mettre au point les petits transistors, enfin les manettes, disons, très primitives, hein, que vous voyez ici, pour animer cet écran. Et jouer à ce jeu qui est un jeu de tennis. Vous voyez immédiatement la différence avec Pong, c'était une vue latérale, une vue de profil et pas du tout de surplomb. Le détail de la machine est très simple, hein, c'est vraiment un truc. Alors évidemment, il y a un programme derrière qui était, ça vous donne un peu l'idée de ce à quoi on travaillait dans ce laboratoire assez sévère, c'est des outils de programmation balistique pour comprendre quelles sont les trajectoires des missiles notamment. Et donc, très simplement, on a intégré ces éléments de programmation à une situation très réduite, comme ça, qui permettait de jouer au tennis, et d'avoir une simulation assez efficace, en fait, des effets, enfin, totalement irréaliste par rapport à ce qu'on sait du tennis, mais assez efficace, des effets de la gravité. Donc, on pouvait varier la vitesse. Il y a deux actions possibles. Vous pouvez jouer sur la vitesse et l'angle d'incidence, et aussi... l'angle d'incidence et donc la vitesse, et aussi par ailleurs sur le moment où vous allez intervenir pour que la balle, puisque le point d'un point c'est une balle, change de direction. Mais vous noterez qu'il n'y a pas de raquette. explique que c'est le point remarquable de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de figuration symbolique de l'opérateur dans l'espace de jeu. Et ça, c'est relativement singulier. Il y a peu de jeux qui présentent cette particularité, il me semble. Même dans Pong, quoi, aussi rudimentaire soit-il, on a des raquettes, quoi, sous la forme de deux segments qui se promènent verticalement dans l'espace de jeu. Bon. Voilà comment ça se jouait sur un écran comme ça. Ensuite, on a fabriqué. Non, je suis déjà sur le prochain jeu. Là.
Ça, c'est Space War.
Ouais, ça, là, je suis déjà sur Space War. Non, ça se jouait sur l'écran que j'ai montré, c'est-à-dire sur un oscilloscope. Donc, la différence avec Pong. Bon, la différence qui fait qu'on a l'impression que c'est Pong qui est le premier jeu vidéo, la différence la plus frappante, c'est que Pong est arrivé, donc, a connu sa gloire du fait qu'il a été introduit rapidement dans les salons, quoi, dans la console. Pourquoi je reviens en arrière, non ? Pardon. Voilà. Je vais juste vous montrer ce document étonnant. Bon, ça fait le concepteur de Pong là, et qui va vous faire une démonstration de ce qu'était Pong avant qu'on l'ait intégré sur une console commercialisée, etc. Mais ça marche déjà comme ça, on voit très bien que c'est tout à fait autre chose. Donc c'est Ralph Baer et Bill Harrison. Donc, tout à la fin des années 60, avant même que Pong soit connu du grand public, ils font une démonstration de. Et c'est moi ce qui m'intéresse juste, c'est le. Là, c'est assez anecdotique, hein, ça n'entre pas directement dans mon propos, c'est la gestuelle, manuelle des deux opérateurs, que j'appelle les opérateurs parce que. Regardez, on dirait qu'il.
C'est quoi,
je suis un peu. On dirait qu'il joue de l'épinette. C'est assez étonnant, c'est tout à fait un autre geste que celui auquel on est habitué. Ça c'est une pub où André Redick contre Pong. Ça illustre bien la bêtise profonde de Pong et justement tout ce qu'on a perdu en oubliant Tennis for Two et en faisant de Pong en quelque sorte l'archétype du jeu vidéo primitif. La bêtise de Pong, outre le fait qu'on a ce point de vue de surplomb qui est aussi celui de Pac-Man, mais beaucoup moins intéressant parce qu'il n'y a pas du tout de différentiel de visibilité et de vitesse comme dans Pac-Man, il y a juste une vue surplombante, une sorte de vue de nulle part. La grande différence avec Pong, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans Tennis for Two, on peut jouer avec la gravité. Et c'est précisément comme ça que André Redick va battre Frank Sinatra. C'est en jouant à Tennis for Two. Sans passer la balle dessous. C'est un truc impensable dans l'espace de jeu de Pong. Bon, ce que je retiens rapidement, j'ai laissé de côté beaucoup de choses que j'avais à dire sur Tennis for Two et Pong, mais ce que j'en retiens. C'est, outre le fait que c'est un jeu en fait beaucoup plus sophistiqué que Pong, parce qu'il intègre plus de paramètres, la gravité, la vitesse, etc., que même la vue de profil peut être considérée déjà virtuellement comme une vue 3D, en fait, ce qui n'est pas du tout, on ne peut même pas commencer à inférer à partir de la vue de surplomb de Pong. Si vous placez de profil, il y a déjà virtuellement l'idée que vous pouvez tourner autour du filet et vous placer face à lui. Je ne crois pas que ce soit du tout suggéré par une vue à plat, la vue du géométrage. Et puis, la présence du filet, évidemment, qui introduit un obstacle plus intéressant que les rebonds latéraux de Pong. Et puis, alors, surtout, donc, ce point qui est que l'opérateur n'est pas inscrit symboliquement dans l'espace de jeu. Ça, c'est très intéressant, parce que je crois qu'il y a un point, là, qui apparente Tennis for Two encore au flipper. Et donc, je pense, dans mon uchronie, il faudrait que je développe les potentialités. C'est-à-dire des jeux qui soient des jeux opérable, vous n'êtes pas dans le statut de joueur, pas trop vite. Vous êtes tenu un peu à l'extérieur du jeu. C'est un jeu sur lequel vous intervenez en manipulant des prothèses, quoi, des interfaces. Vous opérez dans le jeu, Mais du fait que vous n'y êtes pas inscrit symboliquement, vous n'y êtes pas représenté comme joueur, votre place est en quelque sorte marquée, mais en creux, mais invisible, eh bien vous êtes en quelque sorte tenu à la lisière du jeu. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que c'était le problème du flipper, où on ne pouvait pas faire grand-chose, sinon le tilter, quoi. Et où on lançait un processus, où bing, boum, 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 quoi, ça se répercutait dans tous les sens, et où on était, en quelque sorte, plutôt en position de spectateur. Bon, je dirais une dimension forte du jeu, de mes jeux iconiques, ce serait ça. Ce serait des jeux qui seraient spectaculaires en ce sens-là, en ce sens précis. Des jeux qui vous placent, en quelque sorte, à l'extérieur de l'interface. Pas totalement, évidemment. Vous êtes quand même en train de jouer, mais vous n'y jouez pas de façon, disons, immédiate. Il y a un certain nombre de médiations qui vous empêchent de recoller trop vite, de vous projeter trop vite dans l'espace de jeu. Ça me paraît un point important. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des jeux aujourd'hui qui développent cette dimension, mais ils la développent, je dirais, peut-être de façon moins immédiate qu'ici. Bon. Donc ce primat de l'espace opératoire sur l'espace imaginaire, ce serait, si on voulait généraliser le propos, ce serait une des pistes à explorer. Des jeux de manipulation, où la dimension manipulatoire serait la plus importante, puisqu'au fond ce qu'on peut faire dans l'espace de Tennis for Two, c'est pas grand chose d'autre que se localiser, se repérer, bon, ça c'est pas compliqué, mais aussi se localiser une intervention, appuyer au bon moment. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de déplacement du joueur. Il y a un déplacement de la balle, il y a quelque chose qui bouge, c'est animé, il y a une animation, mais il n'y a pas de déplacement du joueur, à proprement parler. Et c'est complètement virtuel. On s'imagine bien qu'il y a quelque chose qui fait que la balle rebondit contre une raquette invisible, mais il n'y a littéralement pas de déplacement. Donc c'est quoi cet espace qui serait un pur espace de localisation, mais pas non plus de localisation abstraite ou théorique, mais c'est un espace opératoire. On opère en se localisant. Qu'est-ce que ce serait si on généralisait ce principe et qu'on produisait des jeux qui fonctionnent vraiment comme ça, de façon intensive. Voilà les pistes que ça me suggère. Bon, après, évidemment, oui, je voulais vous parler de Space War et de... Enfin, c'est l'heureux lauréat d'une compétition de Space War, c'est les Space War Olympics, hein, qui ont lieu à la fin des années 70, déjà. Au début des années 70. Bon, j'aurais eu des choses à dire sur un ensemble de jeux comme Astéroïde, comme Battle Zone, qui est, on dit, le premier jeu de 3D, comme Defender, qui est très important aussi, tout ça étant dans le registre des jeux vectoriels. Defender, qui est un. Ça, c'est moi qui joue. J'ai pas la bonne interface. Une émulation qu'on trouve sur internet. Defender, qui est très important parce que c'est le premier jeu où, de façon massive, on fait servir le scrolling latéral, le défilement latéral, à un jeu d'aventure, puisqu'il s'agit de défendre la Terre contre des abductions martiennes. Et c'est très important aussi que ce soit un jeu de défense plutôt que d'attaque. Il ne s'agit pas de dégommer des adversaires, mais de défendre. Donc, il y a une sorte de cible qui est. Une cible qui est identifiée, mais aussi un objectif clairement défini, ce qui n'était pas le cas de l'astéroïde. Bon, alors, tout à fait à l'autre bout, je termine dans la conclusion parce qu'on n'a pas le temps, mais je veux évoquer un jeu comme Rez. Il y a trois captures d'écran là, qui fonctionnent en parallèle. Et c'est très confus parce qu'on pourrait dire que Rez, bon, c'est pas un jeu vectoriel. Mais il réactualise, il réinvestit massivement beaucoup de dimensions de ces jeux vectoriels, ces jeux de style vectoriel rapidement évoqués, sur un mode un peu, disons, un peu post-moderne, c'est-à-dire qu'on vraiment revisite presque toute l'histoire du jeu vidéo, la genèse du jeu vidéo, à travers ses différentes étapes, et c'est un jeu qui se construit en temps réel, en quelque sorte, avec ce truc un peu pénible qui fonctionne en interaction synesthésique avec des sons et de la musique, le jeu assez pénible. Mais enfin, ce qui me paraît important, c'est qu'on retrouve aussi certains aspects que moi je voyais très évidemment dans Tennis for Two et dans quelques autres jeux de type vectoriel, c'est que l'inscription symbolique du joueur, alors qui n'est pas si symbolique que ça, là, qu'on a une sorte d'ectoplasme qui vole, Bon. Mais elle est totalement indifférente en réalité. Ce qui le montre bien, c'est que l'opération fondamentale qui est celle de la prise, de l'impact, dans Rez est la plupart du temps complètement indéterminée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien s'il faut attraper des choses, les localiser, les détruire, les activer pour que quelque chose se mette à bourgeonner et à se construire. C'est très très déstabilisant.
Ce que je comprends pas, c'est que là c'est trois étapes différentes dans le jeu.
Enfin, le jeu en fait au départ il commence comme un. Donc c'est un jeu qui s'est créé au début des années 2000, ce japonais dont j'ai oublié le nom, mais qui va sortir un jeu incroyable, hein, qui a fait la démo il y a un an avec la Kinect. Et qui commence en fait au début, on a vraiment c'est le style commande vectorielle, on a des points, des lignes, c'est très sobre, très pauvre. Et puis au fur et à mesure que vous activez, j'allais dire vous agitez dans le jeu, il y a des éléments qui se construisent, qui en quelque sorte, comme des petites structures auto-génératives, se mettent à construire un monde, mais un monde dont les contours sont assez indéterminés, dont l'espace aussi est souvent très virtuel, au sens où en réalité c'est de la fausse 3D, c'est souvent de l'habillage. Il n'y a pas vraiment moyen d'explorer. Ça comme un univers tridimensionnel, et puis il y a des structures qui apparaissent en treillis comme ça, enfin qui exhibent leur squelette géométrique, donc avec une référence très forte aux jeux vidéo primitifs, et en même temps c'est tout à fait un jeu vidéo contemporain, puisqu'il exploite jusqu'au bout aussi un certain nombre de possibilités de transformation en temps réel. Je ne sais pas si c'est un jeu qui peut être joué réellement. Ouais. Moi, la seule fois que je l'ai essayé, ça m'a laissé tout à fait perplexe. Et je voulais terminer ces espèces de tours au pas de course en disant que l'idée d'imaginer, mais ce n'est pas juste un exercice. Fictionnel, c'est vraiment aussi aller faire un travail d'archiviste et exhumer un peu des jeux auxquels on pense plus, et où évidemment on ne joue plus beaucoup, et puis essayer de voir en tirant un peu les lignes jusqu'au vers le futur, voir ce que ça aurait pu donner. Ce travail-là, il me semble qu'il permettrait de justement différencier de façon un peu plus fine dans les jeux vidéo contemporains, ou dans très grande variété des jeux vidéo contemporains, ce qui relève, d'une esthétique et ce qui relève, disons, de potentialités techniques ou d'un dispositif qui pourrait donner tout à fait autre chose si on l'exploitait pour lui-même. Je veux dire que, par exemple, toute la technologie, de type quasi cinématique, au sens du cinéma. Du cinéma, des CGI, des Computer Generated Image, toute cette dimension-là qui est du cinéma est revenue vers le vidéo, dans le jeu vidéo, pour vous donner des moments comme ça de pure animation graphique. En fait, il développe, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite parce que c'est enveloppé dans une esthétique tout à fait différente, il développe les virtualités techniques qui étaient explicitement présente, qui était même exhibée de façon un peu maniériste dans ces jeux de style vectoriel des années, disons, fin des années 70, début des années 80. C'est-à-dire que le style abstrait ou géométrique, le style linéaire, vectoriel, en réalité, il constitue l'infrastructure graphique de toute l'animation 3D contemporaine. Ce style des Computer Generated Image immersive, il doit tout, en quelque sorte, aux premières explorations, à la proto-3D qui a été mise en œuvre par le style vectoriel. Simplement, on voit bien que si on avait poussé le style vectoriel pour lui-même à l'époque où il a émergé, on aurait abouti à une esthétique tout à fait différente de celle qui est massivement investie aujourd'hui. Ça aurait été une esthétique plus abstraite, plus géométrique, mais pas simplement pour un effet de style, c'est pas simplement un imaginaire géométrique, à la Tron, si vous voulez, qui se serait déployé, mais peut-être un tout autre rapport au jeu lui-même, et c'est ce que je voulais suggérer en insistant sur cette dimension très intrigante du joueur qui ne se projette pas trop vite comme joueur dans l'espace de jeu, mais qui s'installe comme opérateur du jeu, entre le flipper et le jeu vidéo, quelque chose comme ça. Bon. Donc ça, c'est des idées qui me sembleraient intéressantes à explorer de façon plus fine, ce que je me propose de faire dans les prochaines semaines. Mais, si vous avez des intuitions là-dessus, moi je suis preneur. Voilà. en gros.
Eh ben, merci pour ta présentation. S'il y a des questions, enfin, je veux bien lancer une première question sur cette intervention. Je voudrais rebondir sur une des remarques qui, donc justement sur la position du joueur comme enfin, représenté symboliquement ou non dans le jeu. Je me demande si on ne pousse pas l'Uchronie jusqu'au bout, est-ce que finalement, à ce moment-là, le dernier, la version ultime du jeu vidéo dans cette Uchronie, ce ne serait pas le cinéma? C'est-à-dire en fait un jeu vidéo où le joueur est complètement spectateur et n'agit plus du tout sur le jeu. Et ce qui, en l'occurrence, est à l'opposé de ce qui se passe actuellement, où au contraire, avec la Wii et les modules Kinect, on demande aux joueurs d'être de plus en plus investis, y compris physiquement, dans le jeu vidéo. Donc est-ce que, voilà, si on pousse la réflexion jusqu'au bout, on n'aboutirait pas à ça?
Ouais, alors simplement, on basculerait en dehors du jeu vidéo, en effet.
Mais justement, est-ce que dans cette Uchronie-là, la version parfaite du jeu vidéo, c'est pas du jeu vidéo, c'est plus du jeu?
Ben, ce serait le cas si on ne s'installait pas malgré tout d'emblée dans l'espace intermédiaire, qui est à mon avis vraiment l'espace du jeu vidéo, qui est l'espace que déjà laissé entrevoir le flipper. Vraiment, c'est quoi le flipper? Je reviens au flipper parce que, en fait, j'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est évident dans les usages, dans le voisinage de ces jeux. C'est évident que le flipper a quelque chose à voir, quelque chose de profond à voir avec les premiers jeux vidéo. Mais bon, ça a été confirmé par des lectures de l'histoire un peu archiviste du jeu vidéo. Ce qui est important dans le flipper, il me semble, c'est qu'on est dans une position d'extériorité qui est relative. C'est-à-dire qu'en effet, on actionne le truc, on a une marge d'action très limitée une fois qu'on a lancé le truc. Bon, il y a le truc de appuyer au bon moment pour que les comment ça s'appelle, hein, les gâchettes. La gâchette, c'est comment on appelle ça?
Les bâtons,
les trucs qui font clic-clic. Appuyer au bon moment pour envoyer la balle avec la bonne vitesse et dans le bon angle. Mais bon, et puis après, on peut effectivement, on peut au risque de détruire la machine, si on le fait trop, incliner l'ensemble du dispositif. Mais donc, on est spectateur. Le reste du temps, ça fait ding-ding-ding, ça s'allume, et donc il y a cette dimension d'agitation extrême. C'est le jeu électromécanique à l'état pur où finalement la dimension d'adresse est relativement limitée quand on regarde. Il y a des sas, des flippers, mais. Non, mais c'est très limité au sens, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une technicité, mais ça veut dire que la marge d'action est très très faible. Beaucoup plus faible que dans Tennis for Two, par exemple. On peut intervenir à tout moment. C'est ça que je veux dire. Donc ça se localise dans un certain nombre de gestes, alors qu'on peut maîtriser. Enfin, d'emblée, là, on est placé dans une situation de spectacle, parce qu'au fond, ça fait partie de la jouissance du flipper, de voir la balle rebondir parfois pendant 10 secondes, entend beaucoup de bruit. Et est-ce que pour autant, il y a à l'horizon de ça le cinéma? Je crois pas du tout. Je crois que. Si on s'y installe vraiment d'emblée, ce risque reste assez théorique. Maintenant, sur la Wii, moi, ça m'inspire autre chose. Moi, il me semble que la Wii, du fait qu'on s'agite beaucoup et que le spectacle, qu'on a cassé le, je sais pas, comment on dit, le combienième mur, on a que le quatrième mur. Bon, et que en fait, le jeu se joue aussi dans la salle, qui était virtuel quand on voyait les gars s'agiter sur leur joystick ou sur leur manette. Mais là, qui devient vraiment effectif, ce qui se passe avec ça, c'est qu'en fait, bon, ben, vous n'avez plus besoin. Enfin, moi, ce que je vois à l'horizon de ça, c'est tout le contraire en fait, du cinéma. C'est que vous n'avez plus besoin de vous identifier à ce qui se passe dans l'espace de jeu. C'est qu'on a encore on active encore des raquettes ou des éléments ou des bonshommes, des personnages dans le jeu. Mais en fait, au bout d'un moment, il n'y aura plus besoin de ça. Et on reviendra à la situation de Tennis for Two. Parce que plus on s'agite dans l'univers réel, en dur, moins on a besoin que quelque chose s'agite dans l'écran pour nous représenter. Ça me paraît évident, cette dialectique. Et donc, en fait, on s'éloigne beaucoup, beaucoup du cinéma.
Oui, bien sûr. Non, mais on voit bien qu'il y a une difficulté à définir cet espace intermédiaire qui est le jeu vidéo. C'est-à-dire où on est spectateur, ni acteur,
c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a, je crois, notamment parce qu'on a le paradigme cinématographique en tête, d'un côté, et puis de l'autre côté, des paradigmes qui sont ceux des jeux. Des jeux qui sont moins des jeux de programme que des jeux réglés, quoi. Enfin, les jeux de plateau, enfin, ce qu'on appelle les jeux de société, qui ne fonctionnent pas du tout comme le jeu vidéo, précisément parce que c'est juste c'est le système symbolique, le système des règles qui est l'essentiel. Alors que dans le jeu vidéo, bon, je ne suis pas revenu sur cette affaire, mais c'est pas simplement un espace symbolique, c'est un espace qui est en même temps immédiatement représentatif. C'est pour ça qu'on a le paradigme cinématographique immédiatement qui arrive. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un espace instable entre l'espace symbolique et l'espace représentatif du jeu vidéo.
Il y a un autre... autre élément qui m'avait pas mal frappé quand j'avais essayé Tennis for Two sur une version émulée, en plus du fait qu'il n'y ait pas de raquettes, c'est le fait qu'il n'y a pas de règles dans le jeu. C'est-à-dire que les règles, elles sont importées...
Faut passer le filet.
Ah oui, mais rien dans le jeu ne le dit. C'est-à-dire que, alors même dans la version émulée que j'avais, je contrôlais les deux joueurs. Enfin, pour, mais oui, mais par défaut, c'était comme ça. Alors, après, dans la version base. Alors, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de règles est solidaire du fait qu'il n'y a pas de représentation du joueur à l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce que dans l'aspect opératoire, c'est aussi solidaire d'un aspect, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais simplement d'introduire dans le jeu un certain nombre de modifications d'après un certain nombre de commandes qu'on a. Mais voilà, est-ce que c'est une conséquence, le fait qu'il n'y ait pas de règles, ou alors est-ce que c'est simplement parce que c'est un jeu qui n'est pas encore suffisamment développé et qu'on aurait très bien pu imaginer dans la continuation de ça, sur la ligne de ça, des jeux, ou tout autant que dans des jeux où les joueurs sont représentés, il s'agit de gagner ou de perdre, il s'agit de... Voilà.
Je ne sais pas, c'est une hypothèse intéressante, je vois pas de relation nécessaire entre les deux, comme ça, à froid. C'est vrai que dans ce cas-là, oui, on voit bien qu'en effet, c'est un jeu qui est peu normé, quand même, mais même si immédiatement on projette quand même un objectif et de faire passer la balle au-dessus du filet, mais c'est vrai qu'au fond...
Bah, ceci dit, on voit bien que quand la balle passe pas le filet, on revient à la situation de départ, donc c'est quand même une information capitale. Enfin,
ouais, c'est-à-dire que, en fait, si on veut prolonger le jeu, qui dure un peu, on a intérêt à faire passer la balle au-dessus du filet, mais c'est vrai qu'il y a quand même ça.
Mais rien n'interdit de faire ça, juste au-dessus du filet.
Super Mario, vous pouvez aussi le faire. Hein. Comment, c'est quoi le record du monde? 6 minutes 42 secondes en trichant et tout, on peut jouer comme ça, ça vient de la performance.
Il y a pas encore décompte des points, c'est-à-dire que la temporalité du jeu est quand même très spéciale.
Oui, non, c'est vrai. C'est...
En 3 minutes.
Mais est-ce que pour autant, est-ce que c'est lié au fait que l'opérateur n'est pas représenté? Je ne suis pas sûr, parce qu'on peut imaginer à l'inverse un jeu par exemple, hyper immersif, très réaliste comme ça, avec, voilà, vous êtes une fée qui se balade dans un paysage enchanté, et puis bon, là, c'est complètement dérégulé, vous pouvez passer du temps à juste regarder les effets du soleil dans les feuilles d'arbres.
Il s'agit quand même d'une modification d'un espace esthétique, mais sans conséquence au niveau de ce qu'il faut faire dans le jeu concrètement. Je ne sais pas si j'arrive.
Oui, mais c'est intéressant, faudrait, c'est un truc à étudier en tout cas, ce type de corrélation. Est-ce qu'il y a un effet de connexion entre ces deux dimensions? Bon, c'est pas évident, il faudrait voir.
C'est difficile de savoir vu que ça n'avait pas été poursuivi.
Non, mais on peut le tester sur d'autres jeux, voir si c'est un truc, s'il y a une relation. Moi, je le sens pas, enfin, rationnellement, comme ça, à froid, je vois pas trop pourquoi ce serait le cas. Le fait que un jeu peu réglé serait fortement corrélé à un jeu plus opératoire et moins représentatif.
C'est peut-être moins le fait qu'il n'y ait pas ou peu de règles que le fait que le jeu aussi entre le fait de perdre, d'être game over, et le fait d'être, au contraire, de se maintenir dans le jeu, voire d'avoir des performances qui permettent de s'y maintenir un certain temps.
D'accord.
Comme le fait d'avoir tant et tant de vie quand on joue à Mario.
Ouais, c'est à creuser, ouais.
J'avais une autre petite question. Est-ce que, du coup, dans tes recherches, tu as vu d'autres films avec des jeux vidéo? Enfin, est-ce que il y a des gens qui en ont listé?
Oui, il y a toutes sortes de sites internet où il y a des listes de films.
Si par IMDB, en fait, on arrive à en trouver beaucoup. Ouais. S'il y a un plan où on voit un quart de seconde de jeu vidéo, en général, le film va être listé avec le mot-clé. Ouais. Alors, après, la difficulté, c'est de trouver le bon mot-clé. Parce que ça peut être game, vidéo game, computer game, etc. Mais avec 3 ou 4 mots-clés, on arrive à faire une liste qui est relativement...
Il y a toute une discussion sur le jeu qui est joué dans le premier Tron, Space Paranoid. Mm. Bon, dont il existe une version jeu, ouais, j'ai vu sur Internet beaucoup de gens qui se demandaient comment ce jeu était même jouable, même concevable, tel qu'il est montré dans Tron. On peut s'amuser à ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste l'image du jeu, c'est aussi des jeux imaginaires souvent, tels qu'ils sont joués. Mais bon, faudrait voir de quoi.
Oui, une question.
Ouais, juste sur cette dimension un peu spectaculaire du jeu, je crois que j'ai pas bien compris. L'idée, c'est que le joueur n'apparaît pas dans le jeu sous la forme d'un,
d'un représentant, ou est-ce que c'est... Parce qu'il y a plein de jeux qui sont... finalement, en fait, il y en a quand même pas mal, j'avais essayé de lister tous les jeux de puzzle type Tetris.
Absolument, je pense à Tetris.
Mais, aussi dans les RTS, dans les jeux de stratégie, etc., dans Civilization.
Ouais, mais pour moi, ce n'est pas des jeux vidéo.
C'est pas des jeux
vidéo. Non, je blague. Je veux dire, non, mais je blague, en même temps, je suis sérieux. Je pense qu'on peut s'autoriser ce genre de jugement péremptoire parce que, précisément, il n'y a pas d'espace naturel qui corresponde à jeux vidéo. Un jeu vidéo, ce n'est pas inscrit là dans la nature. C'est lié à des manières de les investir, à des représentations, etc. Donc, moi, je pense qu'en effet, Tetris, c'est différent. Parce que mais par exemple, un certain nombre de jeux de wargames, à mon avis, ne sont pas en fait des jeux vidéo. C'est des jeux de plateau qui ont une interface graphique, quoi. Ils permettent de jouer sur ordinateur.
Pas pour les RTS, je pense pas. Enfin, c'est la real-time stratégie.
D'accord.
Là, on est obligé d'avoir...
Oui, d'accord.
C'est assez marrant, parce que le premier RTS est tiré de Dune, quoi.
Oui, mais faudrait voir. Bon, les jeux de rôle en général, d'ailleurs, si cette dimension-là prend le pas sur les dimensions primitives du jeu vidéo, qui sont une façon de cadrer l'espace, une façon de marquer symboliquement des opérations très simples, etc. Si le jeu de rôle prend le pas là-dessus, je vois pas très bien ce qui est. Évidemment, c'est des jeux vidéo, mais est-ce que c'est encore pertinent d'insister sur le fait que c'est des jeux vidéo?
En tout cas, ce qui me semble étonnant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tellement dans ces jeux-là qu'on va trouver un côté contemplatif ou d'observation sans jeu. C'est plutôt dans les.
T'as pas le temps.
Mais quand je dis spectaculaire, ça veut pas dire forcément contemplatif. On peut s'en prendre plein la tête et être très agité par ailleurs sur son joystick, et ça sera quand même spectaculaire au sens... Alors, c'est pas le seul critère de dire qu'on n'est pas représenté dans l'espace de jeu, mais c'est l'idée qu'il se passe un truc auquel on participe très intensément, puisqu'on est opérateur, on n'est pas à l'extérieur, c'est pas le cinéma. Mais il faudrait raisonner, moi je me suis attardé sur Tennis for Two, mais il faudrait raisonner sur au moins 3-4 exemples différents pour voir comment ça marche. Mais où on ne se projette pas trop vite dans l'espace de jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas. L'expérience de l'interface, comme telle, reste sensible. Alors ça peut être lié parfois à un truc très bête, c'est qu'on a un joystick déficient, qu'on est obligé de faire des manœuvres qu'on trouvait pour arriver à ses fins. Ça peut être ça qui provoque cet effet-là. C'est pas forcément codé dans le jeu. Mais c'est très important. L'expérience du jeu vidéo, c'est une expérience de l'interface aussi. C'est pour ça que les wargames et même les jeux RTS me paraissent à la limite de ce qui, moi, en tout cas, m'intéresse quand je parle des jeux vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a de singulier dans le jeu vidéo. C'est pas ce que le jeu vidéo a en commun avec les jeux de rôle et les jeux de plateau.
Même dans le cas de jeux où, justement, on est... est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'illusion rétrospective, en fait, que nous, maintenant, Tennis for Two, Pong, ça nous apparaît comme quelque chose de très distant?
Mais moi, c'est mes souvenirs. Moi, c'est les seuls jeux auxquels j'ai vraiment joué. Quand j'avais 10 ans, quoi. Donc, mais ce serait quoi l'illusion? Ce serait
quelque chose d'une certaine manière, effectivement, nous, ça nous paraît très bête, etc. Mais ça a pu être un jeu qui était pour les gens qui ont joué à l'époque très.
Je confirme. Les premières consoles, il y avait Pong et les variations sur Pong. Et on pouvait coller des trucs en plastique sur l'écran pour avoir de la couleur.
Ouais, c'est vrai.
Mais je vois pas où.
Ça vient en fait sur la distinction entre les jeux. La distinction entre les jeux d'arcade, c'est des jeux spectaculaires, des jeux à la maison. Sachant qu'en plus à l'époque, les jeux d'arcade, tous les jeux maison sont souvent inventés des jeux d'arcade.
Non, mais c'est lié à plein de choses. C'est lié à la temporalité aussi. Quand on joue à un jeu d'arcade et qu'on a des pièces et qu'on n'est pas millionnaire, quoi, au bout d'un moment. Le temps des parties est limité. Alors évidemment, les parties aussi, elles ont une fin quand vous jouez à la maison. Game Over, ça existe encore, mais c'est gratuit. Bon, tout le contexte de jeu est quand même, à mon avis, radicalement différent. Et donc la dimension de spectaculaire, c'est à nouveau, ça ne veut pas dire être au cinéma, être en position passive, de spectateur, etc. Ça veut dire simplement que c'est un rapport à l'effet jeu vidéo qui est à la fois beaucoup plus intense, parce que vous avez mis, 25 cents ou combien c'était en francs à l'époque. Pas grand chose, mais. Et malgré tout, il y a une espèce d'intensification
Hein? Les premiers 1 franc.
1 franc, c'est pas moins que ça.
Ça
donc c'est déjà cher. C'est pas rien, 1 franc en 80. Donc,
ah, 80, c'était plus cher.
Donc rien que ça, cette dimension-là, elle est... Ça fait que c'est des dispositifs différents. Alors après, effectivement, spectaculaire, il faudrait s'entendre, j'aime pas ce terme chargé, mais c'était une façon de dire, et je le reprenais vraiment à nouveau hein, aux théoriciens du premier cinéma qui disent, d'ailleurs, ils disent pas cinéma spectaculaire. Je veux dire, Abel Gance, c'est pas moins spectaculaire que Méliès. Mais ils disent attraction. Alors, attraction, il y a l'idée de divertissement, etc., le côté forain, mais il y a aussi l'idée que c'est quelque chose qui vous capte, quoi. Et le style vectoriel, c'est des écrans qui scintillent. C'est une intensité lumineuse beaucoup plus forte que sur le moniteur télé à la maison. C'est un truc très impressionnant, en fait, qu'on essaye d'émuler, de retrouver maintenant dans divers jeux. Et cette intensité de l'impact vert phosphorescent sur fond noir, c'est spectaculaire en ce sens précis. C'est quelque chose qui vous pointe comme ça frontalement. Et c'est pas du tout le même rapport que celui que vous avez à votre moniteur quand vous installez dans une temporalité longue. Que ce soit un jeu d'adresse ou un jeu de rôle ou d'aventure.
Excusez-moi, je suis désagréable, je vois que l'heure commence à tourner.
Oui, ouais, bah, pour Aurélien, t'avais une
question aussi.
D'accord.
Enfin,
c'est
complètement évolué que. Non, j'ai juste une petite question sur le parallèle entre le dessin vectoriel et puis l'affichage et l'orientation de l'espace. C'est un peu compliqué, parce que même en mode vectoriel, à l'écran, c'est quand même des pixels.
Ah oui, de toute façon, il y a des pixels.
Donc, de toute façon, et puis surtout.
Non mais
on voit que, par exemple, j'ai l'impression dans la démonstration, en fait, on a pensé à 3D avant même de la faire, c'est-à-dire qu'en filaire, on est capable déjà de donner du relief, avant même de la faire graphiquement, de la fabriquer. Donc, parler de monde immersif aujourd'hui 3D, alors, rétrospectivement, si on regarde, il y avait de la 3D déjà dans la façon de l'approcher les choses.
Mais c'était pas immersif, c'est ça qui est le
but. C'était pas immersif.
Battlezone, je passais très... Enfin, on a vu l'extrait, on est dans le tank. C'était très impressionnant parce que c'était les premiers effets 3D comme ça. Et ce qui était impressionnant en fait, c'est ce qui faisait l'effet immersion, c'était pas le rendu, c'était pas ça. C'était le fait qu'il y avait du hors-champ. Ça, que vous pouviez vous prendre un impact par derrière dans la tête. Et il y a l'écran qui se lézardait comme ça. Et la 3D était très rudimentaire, c'est de la fausse 3D en fait, c'est de la projection isométrique. C'est-à-dire que vous avancez vers l'horizon, mais il reste l'horizon
de. C'est pas tellement le dessin vectoriel qui est en cause là.
Ben si, parce que c'est un effet qui est très facile à obtenir. Cet effet de fausse 3D perspective, il est très facile à obtenir avec le style vectoriel.
Oui, mais c'est plus sur les montages.
C'était très difficile à obtenir à l'époque avec les moyens du bitmap. Point par point.
Ouais.
C'était très lourd.
Cela dit, on n'arrivait pas à obtenir autre chose justement avec les moyens des bitmaps parce que la puissance de calcul ne permettait que des moulins vectoriels. Et on arrivait à le faire en bitmap, mais on n'arrivait pas justement à mapper.
Ça tournait pas assez vite.
Donc on ne pouvait donner que les arêtes et encore souvent on pouvait même pas calculer les arêtes cachées. Donc elles étaient exactement comme un vectoriel représenté. Mais c'est plus lié à la technique de calcul de la représentation 3D que à la technique d'affichage de l'image.
D'accord.
C'est-à-dire que ce soit vectoriel ou que ce soit bitmap, le problème sur lequel on butait, c'était par exemple de détecter les faces cachées ou de mapper une texture sur une.
C'est un point de calcul.
Donc, je suis d'accord avec la remarque. Là, pour le coup, de l'illusion rétrospective, de dire que c'était déjà de la 3D au sens où on en parle maintenant. C'est vrai.
Bah merci pour cette présentation qui soulève pas mal de questions sur lesquelles on reviendra peut-être après les trois interventions.